participe à l'organisation du Lyon BD Festival et surtout qui, dans le cadre de l'épicerie séquentielle, publie depuis janvier de cette année un journal sur Lyon intitulé « Les rues de Lyon, un mensuel de BD ». Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors avant de passer au journal de Lyon, les rues de Lyon, la BD en France, ses particularités, c'est quoi ?
Ouh, vaste question. La BD en France, c'est particulier à la France, on va dire, parce que la France est le seul pays qui lit toutes sortes de bandes dessinées, donc c'est vraiment le marché central mondial, je dirais, de la bande dessinée, sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire bande dessinée franco-belge, comics, manga, etc. Et la bande dessinée en France, c'est un secteur qui a énormément évolué depuis une vingtaine d'années, qui avec un nombre de parutions qui a été multiplié par 5 ou 6. Aujourd'hui, on a près de 5000 bouquins, 5000 nouveautés qui sortent dans les librairies chaque année, ce qui est absolument ahurissant. C'est pour ça que nous, auteurs, on parle de surproduction. Donc pour nos gouvernants, c'est un marché qui est en pleine bourre, si on peut dire ça comme ça. Et puis pour les auteurs, c'est un marché qui est un peu en crise parce que forcément, le gâteau a été divisé en plein de petites parts. Et pour faire son métier et gagner sa vie avec ce métier-là, c'est devenu vraiment très, très difficile. Voilà, c'est un peu là où on en est en France, mais c'est un marché quand même qui est aussi capable, en période de crise, de se repenser, de se réinventer. Et voilà, c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui avec les initiatives auxquelles je participe.
Voilà. C'est ça qui a motivé la création, la mise en place de l'épicerie séquentielle, donc.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que l'épicerie séquentielle, qui s'appelle l'épicerie séquentielle parce que l'épicerie, on vend nos BD comme on vend nos choux et nos carottes pour un commerçant, séquentielle parce que la BD est appelée, en langage un peu soutenu, l'art séquentiel. Et c'est une association qui a été créée en 2004 par un ensemble d'auteurs locaux qui se sont dit, c'est quand même dommage que la plupart des auteurs de bandes dessinées fonctionnent de manière un petit peu individualiste, chacun chez soi, sans trop se connaître, sans trop se rencontrer, à part pendant les périodes de festival. Et ça serait bien qu'on essaye de se voir, de se rencontrer, ne serait-ce que pour partager une bière et un bol de chips. Et puis petit à petit, ça s'est structuré, ça a marché, on a eu envie de mieux se connaître, et puis de commencer à créer des choses. Et puis en 2005, il y a la première édition du festival Lyon BD qui est née, et les organisateurs de ce festival sont venus voir notre association, les auteurs, en disant « Nous ne sommes pas auteurs, nous créons un festival, aidez-nous à créer le festival dont vous rêvez. » Et donc on a été nombreux dans l'association à continuer les activités de l'association, mais à rejoindre également l'organisation du festival pour faire ce qu'il est, enfin faire de ce festival ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des 5 plus gros festivals de France, qui a accueilli cette année près de 70 000 visiteurs sur un mois, et avec des spectacles, des séances de signature, des expositions, des choses comme ça. Voilà. Et l'association a été un petit peu mise en sommeil pendant cette période-là, et on l'a réactivée il y a à peu près 3 ans, voyant que le festival fonctionnait bien sans nous, même si on continue de travailler avec lui. Et on s'est dit, ben voilà, on va relancer l'association, on va refaire d'autres choses. Et on a commencé d'abord par organiser, en moyenne tous les 2 mois, des soirées, conférences, autour du travail d'un auteur. Donc on profite du passage de certains auteurs ici sur Lyon, pour une séance de dédicace dans une des librairies lyonnaises, pour l'inviter dans un amphithéâtre qui est prêté par l'école d'art Bellecour, pour l'interroger, lui poser des questions sur sa carrière, ses méthodes de travail, etc. Ce sont des conférences qui sont ouvertes à tous, grand public, mais il y a principalement des étudiants des différentes écoles dans lesquelles nous enseignons, et puis il y a des passionnés de bande dessinée, des auteurs locaux, etc. Et voilà, on organise des soirées comme ça, où il y a une conférence, puis après une petite bouffe qu'on prépare nous-mêmes, donc c'est assez convivial. Et puis dans le prolongement de ces activités, on s'est dit, voilà, maintenant, nous sommes nombreux, nous sommes soudés, nous avons des outils importants de communication ici sur Lyon, on est bien implanté dans le paysage local, il serait temps qu'on ait notre propre outil d'édition. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé il y a 3 ans à réfléchir sur comment faire. Et on a lancé effectivement, alors c'est pas en janvier dernier, mais on a lancé ça au mois de juin dernier exactement, une revue mensuelle qui s'appelle Les Rues de Lyon, qui fait 10 pages, qui propose donc tous les mois 10 pages de bande dessinée réalisées par un auteur local sur un sujet local, imprimé en local. On fait pas imprimer à l'étranger, on fait tout ici. Et qui propose, voilà, c'est des bandes dessinées, 10 pages de bandes dessinées à chaque fois. Et puis on a lancé en fait les 6 premiers numéros d'un coup pendant le festival Lyon BD qui a eu lieu à la mi-juin. Et on est très heureux parce que ça fonctionne très bien. Là, on a le 12e numéro qui sort à la mi-décembre. Et on est heureux de voir que non seulement ça marche bien, mais on a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de librairies qui veulent nous distribuer. Donc c'est plutôt une belle aventure.
Il est vendu combien ?
Alors c'est un journal qui est vendu 3 euros.
Et ça suffit pour vivre, 3 euros ?
Alors le principe même du fonctionnement de l'association est un peu particulier, au sens où quand on a décidé de créer cette structure d'édition, on s'est dit, si on crée une entreprise d'édition classique, ça générera trop de charges pour payer les auteurs correctement. Donc on a décidé de rester en association, on a décidé que l'intégralité du travail éditorial, donc l'administratif, la diffusion, distribution, la gestion des projets, etc., serait faite par l'ensemble des auteurs et des membres de l'association qui le désirent, de manière bénévole, de manière à pouvoir payer les auteurs beaucoup mieux. Donc seuls les auteurs sont payés dans cette aventure. Donc d'habitude sur un livre, sur un album de bande dessinée, il faut savoir que seul 8 à 10% du prix du livre va à l'auteur. Ça fait pas beaucoup. Là, on paye 33% à l'auteur. Ce qui fait que sur les 3 euros du prix du livre, du magazine, il y a 1 euro qui va à l'auteur, 1 euro qui va au libraire, au revendeur, évidemment, et puis 1 euro à l'association pour payer les frais d'impression. Donc c'est à la fois une expérience d'édition, mais c'est aussi une expérience d'auto-édition collective, d'auto-gestion collective aussi, parce que dans notre association, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est responsable de ce qu'il doit faire. Il y a des ateliers de travail et il y a un groupe de superviseurs qui s'occupent de la communication entre les différents ateliers de façon à ce que tout se passe bien. Mais toutes les décisions se font en collectif et ça se passe franchement très bien.
Vous êtes combien dans cette association ?
On a une bonne trentaine. Oui.
D'accord, ouais. D'accord.
Avec pas seulement des auteurs, on a aussi des gens qui viennent de différents horizons, qui ont à la fois envie de s'impliquer dans une opération de ce genre-là, mais à qui on offre la possibilité de devenir auteur, parce que finalement, écrire un scénario à partir d'une histoire locale d'une dizaine de pages, ben c'est accessible à tous à partir du moment où ils sont accompagnés d'un certain nombre d'auteurs professionnels qui peuvent les aider.
Donc vous avez des nouveaux auteurs, des nouveaux futurs auteurs qui vous rejoignent régulièrement.
Exactement. Ça gonfle régulièrement. Alors c'est ce qu'on dit aux auteurs qui nous rejoignent et qui ont envie de participer à l'opération, on leur dit bien que s'ils veulent être édités par l'épicerie séquentielle, ben ça implique qu'ils s'impliquent. C'est-à-dire qu'il faut participer à des ateliers, à la distribution, parce que c'est nous-mêmes qui prenons nos petits vélos pour aller dans les différentes librairies lyonnaises pour distribuer les exemplaires. Donc ça veut dire que ils sont bien mieux payés que chez un éditeur classique, mais c'est aussi une expérience qui implique une participation. Ouais.
Alors la diffusion, les libraires, tout le monde a joué le jeu
Oui, vraiment. Puis beaucoup de libraires, parce qu'on a la chance à Lyon d'avoir une bonne dizaine de librairies spécialisées en bande dessinée, mais on a aussi beaucoup de librairies généralistes qui ont des rayons bande dessinée et qui adorent notre projet et qui se sont proposés pour les revendre. On a aussi d'autres grandes marques, des grands centres commerciaux qui nous ont proposé de nous diffuser. On a aussi des librairies à l'extérieur de la ville, donc ça c'est un petit peu plus compliqué parce que les vélos ils vont pas très très loin non plus. Mais on arrive toujours à se débrouiller et puis on a une proposition d'abonnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui notre journal Les Rues de Lyon part un peu aux quatre coins du monde, au Japon, aux États-Unis, en Écosse, chez des Lyonnais expatriés.
Et vous avez une production qui s'élève à combien d'unités?
Alors là, on a, comme je disais, on a le 12e numéro qui sort et chaque numéro est imprimé à 3000 exemplaires.
3000.
Et les 6-7 premiers, aujourd'hui, on atteint déjà à peu près les 2000 exemplaires vendus pour chaque numéro, donc ça marche vraiment bien. Voilà. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que à peu près les deux tiers des nouveaux abonnés demandent à être abonnés à partir du premier numéro. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur un objet qui, c'est pas du papier journal léger, c'est un papier assez costaud pour que ce soit un joli objet qu'on ait envie de collectionner. D'ailleurs, on va sortir là pour les fêtes un coffret en carton décoré, etc., pour pouvoir collectionner ces 12 premiers numéros et les ranger dans sa bibliothèque avant de commencer les parutions de l'année 2016. Donc voilà, c'est un bel objet et apparemment les gens apprécient ça.
Alors, c'est quelle histoire qui est On raconte quelle histoire dans cette BD?
Il y a un peu de tout. Parce que ça s'appelle Les Rues de Lyon, mais c'est pas forcément lié à une rue. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'histoire lyonnaise. La règle, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas de la fiction, on raconte des vraies histoires, même si elles sont reconstituées, remises dans un contexte. Donc les premières histoires, le tout premier numéro, ça parle du pape Clément V qui au XIVe siècle est venu à Lyon se faire couronner pape et qui en redescendant de Fourvière s'est un peu cassé la gueule dans la montée du Gorillon. Il y a un muret en fait qui s'est effondré sous le poids de la foule qui était venue assister à la procession. Et il y a eu des morts, ça a été une sacrée catastrophe. Et le pape, il s'est retrouvé les quatre fers en l'air, il a perdu sa tiare. Et sur sa tiare, il y avait un très beau bijou qui n'a jamais été retrouvé. Voilà, il a disparu, il n'a jamais été retrouvé. Sinon, on a d'autres histoires comme La Fanny. La Fanny, je l'aime beaucoup ce numéro parce que c'est le numéro 7 qui est sorti au mois de juillet dernier. Et qui est un numéro qui parle de cette tradition qui consiste à embrasser les fesses de La Fanny quand on s'est pris une piquette au jeu de boules. Voilà, et c'est une histoire que beaucoup pensent être d'origine marseillaise, parce qu'ils pensent que c'est lié à la pétanque, alors que c'est une histoire croix-roussienne, du Clos Jouve, exactement, et qui est liée à la longue, je sais plus comment on dit exactement, mais c'est la boule lyonnaise, la grosse boule lyonnaise, et si vous faites un petit tour au Clos Jouve, donc sur la colline de la Croix-Rousse, il existe à côté de deux terrains de boules qui sont un petit peu abandonnés, une sculpture en forme de boule énorme comme ça à jouer, et si vous jetez un œil à l'intérieur, vous verrez les fesses de La Fanny, voilà, en bronze, c'est très joli. Donc voilà, on raconte cette histoire qui est très très chouette. Puis sinon on raconte l'histoire de la morgue flottante qui était une morgue qui était devant l'Hôtel Dieu à une certaine époque au 19e siècle et qui permettait aux habitants de Lyon d'aller rendre visite aux morts inconnus qui avaient été retrouvés généralement noyés dans le Rhône ou la Saône, et qu'il fallait reconnaître. Donc on s'était ouvert au public et c'était une véritable attraction touristique. Il y avait parfois plusieurs centaines de personnes qui faisaient la queue pour aller voir le dernier cadavre qui était arrivé sur cette barge, jusqu'au jour où il y a une crue qui a tout envoyé promener à travers les flots. Donc voilà, c'est beaucoup d'histoires un petit peu rigolotes comme ça. Il y a aussi le dernier qui est sorti, le dernier du mois de novembre, qui s'appelle Le Merdeauduc. Ah, il sent bon ce numéro parce que c'est un numéro, parce qu'on connaît les viaducs et les aqueducs, mais les merdeauducs un petit peu moins. Et effectivement, à Lyon, on a eu un merdeauduc, c'est-à-dire un réseau de pipelines, de tuyaux avec des pompes censées récupérer les excréments humains qui étaient stockés dans des fosses pour envoyer ça dans des réservoirs à l'extérieur de la ville pour que ce soit utilisé par nos agriculteurs, notamment ceux qui cultivent les roses, parce que pendant plus de 300 ans, la ville de Lyon a été la capitale mondiale de la rose. Et ils voulaient surtout pas que cet or brun, cet or qui pue, soit perdu à cause de l'installation d'un tout à l'égout. Voilà, on raconte cette histoire. C'est un numéro qui a été dessiné par Hugo Panicot et puis qui a été scénarisé par Sandrine Boucher, qui est journaliste, qui est une des fondatrices de la Tribune de Lyon. Et c'est vraiment assez réjouissant, c'est drôle et c'est un peu tordu, c'est un peu rigolo. Voilà, on aime bien ce genre de numéro. Et puis j'ai envie de parler du numéro qui va sortir là. Au début décembre, qui s'appelle une école, c'est un numéro sur l'école Gilbert Dru. L'école Gilbert Dru, c'est une école qui est dans le 7e arrondissement de Lyon et qui a pour particularité d'être très engagée dans la défense des parents d'élèves qui sont menacés d'expulsion pour des questions de papier. Voilà, et donc ça fait un certain nombre d'années qu'ils se mobilisent et qu'ils organisent un véritable réseau de résistance. Et qui a fait d'ailleurs tache d'huile, puisqu'il y a plein d'autres établissements qui se sont joints à l'opération pour faire la même chose chez eux. Il y a même des enseignants qui demandent à être mutés d'ici pour cette raison-là. Donc c'est vraiment une histoire beaucoup plus actuelle cette fois-ci, c'est moins historique, mais c'est vraiment très intéressant.
Alors et toi, tu as un projet de scénario probablement, je t'ai pas vu encore.
Non, pas encore. Voilà, moi j'ai d'abord travaillé à mettre en place la structure parce que ça m'intéressait de travailler sur cette création et puis je l'ai pas fait tout seul, on est nombreux à avoir travaillé là-dessus. Et j'ai pris mon temps avant de décider ce que j'allais raconter et finalement j'ai eu envie de faire un numéro un peu récapitulatif, c'est-à-dire que il va s'appeler l'histoire de Lyon en 10 pages pour faire le malin en société, parce que c'est important. Quand on fait partie de l'épicerie séquentielle et qu'on publie une revue sur l'histoire de Lyon, on a des risques de se retrouver de temps en temps dans un cocktail ou un truc un pince-fesse quelconque et avec quelqu'un qui dit alors toi qui publie des trucs sur l'histoire de Lyon, raconte-moi l'histoire de Lyon. Et ben voilà, on va raconter l'histoire de Lyon en 10 pages comme ça, tout toute personne qui fait partie de l'épicerie et puis tout lecteur de nos journaux pourra faire le mariole en disant, ben moi je sais, je peux raconter ça en 10 pages. Voilà. Et je travaille avec une de mes anciennes étudiantes qui s'appelle Lila Cognier et qui est particulièrement douée, qui fait des dessins assez magnifiques. Donc voilà, c'est plutôt. Et donc celui-là, il sort en février. Voilà.
Et vous avez une programmation à quelle échéance?
Ah ben là, on a. Nos numéros sont déjà bloqués, enfin les sujets sont bloqués jusque pratiquement novembre 2016. Donc il y a de quoi faire, mais c'est le problème. Et notre chance à Lyon, c'est qu'on a une ville qui a été fondée en moins 43 avant Jésus-Christ. On a 2000 ans d'histoire, donc il suffit de soulever un caillou et on en trouve 12. Il suffit de parler à quelqu'un pour dire mais ça me rappelle, je connais une histoire, je connais une anecdote. Il y a plein de choses à raconter. Donc la difficulté, c'est pas de trouver des histoires, c'est au contraire de les choisir. C'est ça qui est pas évident.
Et alors comment ça se passe dans votre association pour faire le choix de
mais en fait il y a plusieurs ateliers. Il y a plusieurs ateliers, donc il y a des ateliers administratifs, communication, gestion de l'impression, etc. Et il y a un atelier suivi des auteurs. C'est cet atelier qui travaille sur le suivi des sujets en cours et qui s'occupe justement de réceptionner les projets, les sujets proposés et de les sélectionner. Alors généralement les auteurs, ils nous amènent un sujet et on leur demande de nous faire un petit synopsis du sujet pour nous expliquer de quoi ça parle et sous quel angle ils veulent l'aborder. Voilà, et généralement on fait lire, on en parle un petit peu à tout le groupe aussi pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont des avis sur la question. Et puis on sélectionne comme ça. Voilà, et généralement ça se passe très très bien et on a toujours des belles surprises quand on nous amène des sujets comme les prochains qui vont arriver, c'est ensuite janvier sur la révolte des imprimeurs au 15e siècle à Lyon qu'on appelait le grand tric, ce qui est assez drôle. On a aussi un sujet sur Louise Labbé, la poétesse lyonnaise. On a un sujet sur la piscine du Rhône, aussi l'historique de la piscine du Rhône. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, c'est assez chouette. Ouais.
Ouais. Alors, au niveau de l'épicerie séquentielle, donc ça démarre par une association de producteurs,
de scénaristes, coloristes, dessinateurs.
Ensuite, ouais. Lyon BD Festival. Ouais. Les rues de Lyon. Et il y a d'autres projets derrière.
Alors, il y a d'autres projets. Déjà, avant de parler des autres projets, ce qui est important pour nous dans notre construction, c'est vraiment de créer un réseau local qui donne à tous les auteurs lyonnais des possibilités de création multiples. Voilà, c'est important. C'est-à-dire que ce qui m'agace beaucoup quand on parle d'artistes, il y a un certain discours, notre plus proche de l'art contemporain, de l'art conceptuel, qui dit un artiste ne sert à rien, il n'a pas à servir à quelque chose, un artiste il est, point. Moi, ça me casse les noix, ce genre de discours. Je considère qu'un artiste qui ne sert à rien, il faut qu'il aille faire autre chose, parce que un artiste, pour moi, ça a une fonction sociale qui est extrêmement importante. Et souvent, les auteurs, quand ils démarrent leur boulot, ils ont tendance à envisager leur travail qu'à travers l'édition nationale ou internationale, chez un gros éditeur, en faisant de la fiction, des choses comme ça. Or, pour moi, un artiste doit aussi envisager, il peut aussi envisager, c'est pas une obligation, évidemment, de travailler pour sa proximité, pour l'environnement dans lequel il vit lui-même. Et l'idée de pouvoir proposer à tous les Lyonnais, qu'ils soient des administrations, des associations, des entreprises, n'importe qui, d'avoir à disposition des artistes qui leur proposent leur langage graphique, parce que la bande dessinée c'est un langage graphique, c'est une vraie langue avec sa ponctuation, son vocabulaire, sa stylistique, et ben on peut parler de tout avec ce langage. Et donc plus on aura de production locale, plus on aura des gens qui comprendront que la bande dessinée c'est un outil de communication extraordinaire, et plus on aura des projets structurés, professionnels qui permettront de mieux s'entendre, de mieux se comprendre à travers un langage qui est populaire. Donc c'est pour ça que ce travail qu'on fait avec l'épicerie séquentielle est dans le prolongement aussi d'un travail que j'effectue avec l'école Émile Cole, où je suis professeur depuis 10 ans, professeur de bande dessinée. Donc l'école Émile Cole, c'est une école qui a une trentaine d'années et qui propose un enseignement classique des arts, donc études doc, perspective, le nu, la peinture, etc. Et qui propose ensuite des formations plus spécialisées dans le multimédia, dans le jeu vidéo, dans l'animation, la bande dessinée, l'illustration, etc. Et depuis l'année dernière, en accord avec la direction, j'ai proposé aux élèves qui doivent passer leur diplôme non plus de travailler en bande dessinée sur un projet de fiction, comme ils avaient tendance à le faire, mais de leur proposer des boulots de commande. Alors pas avec des entreprises, mais avec des administrations, des associations, locales ou non, pour leur permettre une transition plus intéressante entre le milieu scolaire et le milieu professionnel. Donc j'ai fait travailler des auteurs, des étudiants, avec les foyers à Doma, par exemple, les anciens foyers Sonacotra, sur des questions d'immigration. J'ai fait travailler avec le syndicat mixte des Rives du Rhône, sur des questions d'aménagement du territoire, avec le ministère de la Défense et le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, qui collaborent, les naturalistes et les militaires collaborent, pour permettre aux naturalistes d'étudier la biodiversité dans les camps militaires. Cette année, on travaille sur d'autres projets avec le ministère de la décentralisation et avec la fonction publique pour que les élèves, en collaboration avec des étudiants de Sciences Po, aillent faire des enquêtes sur l'innovation territoriale, c'est-à-dire toutes les initiatives citoyennes qui sont faites à peu près à travers tout le pays pour le bien commun. Voilà, tous ces projets-là. Donc c'est ce projet global sur Lyon qu'on essaie de développer pour apprendre aux auteurs à faire de la bande dessinée de type documentaire reportage et faire comprendre à tout le monde que effectivement ce langage pour la recherche, pour l'administration, pour toutes sortes de sujets, ben c'est quelque chose de très précieux. Voilà, ça c'est important. Et après, dans les projets qui vont arriver plus tard en termes d'édition pour l'épicerie séquentielle, ben, on travaille actuellement sur un projet jeunesse, un bimestriel sur des thématiques locales toujours, qu'on est en train de travailler sur la faisabilité de ce projet. Puis on a un autre projet sur une publication annuelle, plus grosse pagination, un collectif thématique. Et certainement que le premier serait un ensemble de reportages de plus ou moins grande longueur, fait par plusieurs auteurs, journalistes, historiens, etc., sur la bouffe, évidemment, parce qu'à Lyon, si on ne parle pas de la bouffe, on a raté quelque chose.
Très bien. Bon, ben, Olivier, on va faire une pause musicale.
Pas de problème.
T'as choisi cette pause musicale comment ?
Tout seul comme un grand. J'ai écouté ce qui traînait dans mon stock, et puis j'ai pris celle que je trouvais jolie. Et
tu travailles en musique?
Alors, je sais pas laquelle, on balance la première. Je pense que c'est Emiliana Torini.
Est-ce que tu travailles en musique?
Mais je travaille en musique. C'est-à-dire que je travaille en atelier. On est 10 auteurs dans un seul atelier dans le 7e arrondissement. Parfois c'est un peu bruyant, donc j'ai besoin de m'isoler. Mais surtout, j'ai besoin d'une ambiance. Alors pas de la musique, pas de la musique française avec des paroles que je comprends, parce que sinon c'est une catastrophe. J'arrive plus. Ce que j'écris, c'est les paroles de la chanson. Donc il vaut mieux de la musique d'ambiance ou de la musique anglo-saxonne que je comprends pas bien. Mais voilà, je me laisse porter par la mélodie et je me laisse porter par les ambiances. Et parfois ça a une influence, mais pas la même.
Colors, thoughts, emotions are trapped
sommes toujours sur l'émission Le Grain de Sable, sur Radio Canu, avec comme invité Olivier Jouvret pour nous parler de l'association L'Épicerie Séquentielle et donc de la série de BD mensuelle Les Rues de Lyon. Alors déjà, première question pour commencer, est-ce que tu pourrais désannoncer le morceau donc, que tu nous as proposé, oui, qu'on vient d'écouter?
Je pense qu'Emiliana Torini, ce sera après. Celui-ci, c'est le groupe MGMT qui est le morceau s'appelle Introspection. Ça tombe bien parce qu'on est en pleine introspection pendant cette émission.
Donc là, avant la pause, on parlait un peu aussi la façon dont, ou par les BD Rue de Lyon, ou alors aussi par le travail dans les écoles de BD, comment on peut arriver à rentrer un peu dans le milieu professionnel. Au début de l'émission, tu nous disais qu'il y avait une multiplication des publications de bandes dessinées. Oui. Est-ce que ça correspond aussi à une multiplication des éditeurs, avec des nouveaux petits éditeurs, ou c'est quand même plutôt les gros qui concentrent
la production ? Il y a un peu des deux. Moi, j'ai fait partie du syndicat des auteurs de bande dessinée pendant 5 ans pour essayer de rentrer dans les coulisses et essayer de comprendre comment ça marche derrière les façades. Et c'est là que j'avais découvert qu'il y avait plus de 250 éditeurs en France, ce qui est gigantesque. Mais effectivement, en tant qu'auteur, on a l'impression d'être un petit peu toujours confronté à une dizaine ou une quinzaine d'éditeurs, et parmi lesquels les gros
comme les majors.
Les majors comme Média Participation, Delcourt, Glénat, etc. Et disons qu'il y a eu une tendance à vouloir multiplier les sorties parce que en France la bande dessinée se vend bien, les gens ont envie de lire ça, il y a beaucoup de lecteurs en France. Mais ça s'est transformé progressivement en une course à l'occupation de l'espace dans les librairies de la part de certains éditeurs, et ce qui fait que ils ont commencé à vouloir gagner de l'argent non pas sur la qualité des albums mais un peu plus sur la quantité. Ce qui fait que on s'est retrouvé avec des éditeurs qui sortent 300, 400, 500, 600 albums par an. Ce qui est gigantesque, avec des directeurs éditoriaux qui n'ont plus le temps de s'occuper correctement des albums, ce qui fait que aussi les albums, quand ils sortent en librairie, quand ils arrivent sur la table des nouveautés, au lieu d'y rester un mois ou 3 semaines comme avant, et ben maintenant ils y restent 3 jours. Donc ils ont de moins en moins de temps pour se faire repérer, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle on essaye d'inventer notre métier d'une autre manière. Voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement comment ça a démarré et qu'est-ce qui a été moteur de cette surproduction. On sait juste que voilà, depuis quelques années, les éditeurs eux-mêmes se rendent bien compte qu'il y a un problème et qu'ils essayent d'envisager les choses un petit peu différemment. Il y a quelques éditeurs qui ont décidé de réduire leur production d'un quart pour soulager un petit peu le milieu. Ouais.
Et ce qu'on constate aussi, contrairement à l'édition littéraire, c'est qu'il y a peut-être moins de fidélité de la part des auteurs à une maison d'édition, ouais, qu'on aime bien, qui papillonnent, ou peut-être aussi même des grands auteurs qui vont dans des petites éditions, peut-être même aussi pour les aider, les faire connaître.
Parfois pour les faire connaître, mais c'est surtout parfois parce que les petits éditeurs peuvent prendre plus de risques sur des projets ou des bouquins un petit peu plus difficiles à vendre, parce qu'ils ont plus le temps de s'en occuper, ou parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Disons que pour moi, je considère que c'est une grande victoire de la part des auteurs de bande dessinée de pouvoir justement mettre en concurrence nos éditeurs. Dans le milieu de l'illustration jeunesse, du livre jeunesse et puis du roman, de la littérature, quand on est chez un éditeur, on appartient à l'éditeur. On fait partie du cheptel, on fait partie de la famille et on n'en sort pas. Si on en sort, on n'en revient plus, et puis on peut être même blacklisté pour les autres éditeurs. C'est très compliqué. Je n'aime pas du tout ce rapport paternaliste de l'éditeur par rapport à l'auteur. Je préfère que l'auteur ait bien conscience que ce qu'il entretient avec son éditeur, c'est un rapport de partenariat. C'est pas un rapport de subordination. On n'est pas employé. On signe un contrat. Et le contrat, il doit être égalitaire. Donc, pour moi, c'est vraiment un vrai progrès dans le milieu de la bande dessinée. C'est-à-dire que quand moi je travaille sur un sujet, ben, je l'envoie à 4, 5, 6 éditeurs. Et c'est celui qui me proposera les meilleures conditions, et pas forcément des conditions financières. Ça peut être les conditions d'accompagnement, le feeling aussi qu'on peut avoir avec le directeur de collection, leur enthousiasme ou des choses comme ça qui peuvent être déterminants pour décider de travailler avec tel ou tel éditeur. Voilà. Je parle un petit peu de ça parce que ma femme est écrivain, elle donc évolue dans le milieu de la littérature, et donc j'ai pu approcher ce milieu grâce à elle, et je vous assure que l'ambiance n'est pas la même. Donc je préfère de loin l'ambiance du milieu de la bande dessinée, même si dans un cas comme dans l'autre, en vivre c'est très compliqué. Au moins là on rigole. Et on est un peu indépendant et on se considère pas comme des enfants en attente d'être sauvés par leur éditeur.
Très bien. Olivier, tout à l'heure, tu faisais allusion à une évolution de la BD vers la société civile, en quelque sorte. Mmh. Si j'ai bien compris, c'était avec les étudiants, dans un premier temps, de l'école dans laquelle tu enseignes. Mais est-ce qu'il y a des réalisations pratiques qui ont vu le jour et qui fonctionnent déjà et qui peuvent, bien sûr, diffuser?
Alors, ça s'est passé à plusieurs niveaux. En fait, si j'ai décidé de travailler sur cette bande dessinée de type documentaire, qu'on appelle un peu pomposement... la bande dessinée du réel à l'école Émile Cole, c'est parce que depuis, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années, la bande dessinée dite de reportage trouve un vrai public dans le milieu éditorial français, à travers des auteurs comme Emmanuel Lepage, comme Étienne Davodeau, Emmanuel Moineau, des gens comme ça, qui font des bouquins absolument remarquables. Et puis c'est aussi parce que il y a quelques années de cela, il y a deux ans de cela, un peu plus de deux ans, j'ai participé avec d'autres auteurs à la création d'un magazine, un autre magazine, la Diffusion Nationale, qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est un magazine de reportage, enquête et documentaire en bande dessinée, qui sort donc trimestriel, qui fait 230 pages, et qui met en collaboration des auteurs de bande dessinée avec des journalistes pour parler de toutes sortes de sujets de type journalistique, et qui marche très bien aussi. Donc on a vu qu'il y avait il y a un engouement autour de ça. À côté de ça, j'ai fait d'autres expériences. Par exemple, j'avais travaillé sur trois expériences avec des laboratoires du CNRS, où j'avais visité des laboratoires avec des auteurs, donc à chaque fois un auteur différent. J'étais allé visiter le laboratoire du CNRS du Jardin du Lautaret dans les Alpes, qui est un laboratoire qui étudie les plantes alpines. J'avais visité aussi le laboratoire des champs magnétiques intenses à Grenoble, et puis le laboratoire qui ressemble au QG d'un savant fou dans le tunnel du Fréjus à Modane. Si vous prenez ce tunnel, au milieu du tunnel, il y a une porte métallique, et ben derrière, il y a un énorme laboratoire souterrain qui travaille sur la recherche de la matière noire, donc sur l'astrophysique, et c'est assez extraordinaire. Donc j'ai pu rentrer dans ces lieux avec des auteurs et puis en faire des petits reportages bande dessinée pour voir comment on pouvait, encore une fois, mettre au service d'un propos qui n'est pas le nôtre, notre langage graphique. Et puis ça m'a donné le goût, tout ça, voilà. Et donc
ça n'était que des projets, ça,
c'était des projets, des thèses, des expériences. Bah alors, voilà. J'ai dessiné, c'est plus qu'un projet, parce que c'est devenu une vraie réalisation qui fonctionne très bien aujourd'hui. Maintenant, l'évolution, c'est qu'on a de plus en plus de gens, voilà, d'administration, d'associations, d'entreprises qui comprennent tout l'intérêt de ce langage et qui nous contactent en disant on aimerait bien faire quelque chose. Là, je parlais tout à l'heure de cette expérience qui consiste à faire des reportages dans les terrains militaires sur le travail des naturalistes. Il y a un album qui est sorti, qui est diffusé à travers tous les terrains militaires, quoi, que je crois qu'il a été publié à 5000 exemplaires. Il n'est pas dans les librairies, mais il est diffusé auprès de tous les militaires qu'on appelle les militaires du rang, c'est-à-dire les militaires de base, quoi, et qui sont... Le but, c'est de les sensibiliser à l'environnement. C'est-à-dire que quand ils font leurs manœuvres dans ces terrains militaires qui sont parfois gigantesques et plus grands que même des parcs naturels, qui sont en friche depuis très longtemps, au point que plein de populations d'animaux ne se trouvent que dans ces lieux ou ne se reproduisent que dans ces lieux, eh bien, c'est changer le regard des militaires sur leur environnement et les sensibiliser à ces questions. Et je trouve que c'est un projet extraordinaire. Ça change pour moi, un bouquin qui change le regard des gens sur quelque chose qu'ils voient tous les jours, je trouve ça chouette, quoi.
Et tu as des retours, ça fonctionne bien?
Ah oui, vraiment, on a des retours absolument enthousiastes. On a fait, il y a quelques semaines, une séance de dédicace au quartier général Frère, voilà, en présence du général des armées de Lyon, qui était en treillis, un costaud comme ça, qui est venu avec un enthousiasme débordant, qui a trouvé la bande dessinée fantastique et qui a déjà envie de monter d'autres projets, qui m'a demandé si on pouvait rester en contact pour justement imaginer d'autres sujets de collaboration. Je trouve ça chouette. Et pareil, la Ligue de protection des oiseaux qu'on a rencontré à travers ce projet sont venus nous voir et qui ont envie de travailler avec ce langage.
Voilà. Tu parlais que c'était pouvait être un outil de communication et ça change un peu des modes classiques qui vont être un guide.
Ah oui.
Faites ci, faites pas ça, faites attention à ci. C'est clair que ça change complètement la sensibilisation des personnes.
Ben, c'est le travail d'un auteur. Donc, ce que je trouve extraordinaire dans la bande dessinée de ce type-là, c'est que souvent l'auteur se met en scène. C'est-à-dire qu'il se représente dans la case, en train de faire son reportage, en train de s'intéresser à quelque chose. Il ne se présente pas comme un expert, il se présente comme un curieux. Quelqu'un qui aime, qui a envie de découvrir, et on va le suivre pendant son enquête, pendant sa pérégrination, pendant son voyage, pour découvrir de quoi il parle en même temps que lui. Et je trouve que c'est un partage d'expérience extraordinaire. Et à cette époque où on parle énormément de crise économique, de crise politique, de crise climatique, on ne parle que de crise, de toute façon, en permanence. Ben, c'est aussi une crise de communication. C'est-à-dire, on a tellement de moyens de communication que finalement, c'est un bruit de fond permanent et il y a trop d'informations pour arriver à les trier correctement. Donc, c'est aussi une crise de langage commun. Tout le monde parle, personne s'écoute. Donc, il est nécessaire que, un certain nombre de langages, comme la bande dessinée, qui est un langage qui prend son temps, parce qu'une bande dessinée, ça se fait pas en 5 minutes, qui prend son temps, qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de la réalisation et qui offre à ceux qui vont la lire ben, un objet qui se conserve, qui garde l'information et qui permet à celui qui le possède ben, de s'informer sur quelque chose et de se réinformer sur le même sujet. Si 6 mois plus tard, il reprend la bande dessinée, ben, il a toujours cette information à disposition. C'est une information qui reste, contrairement à cette information virtuelle des médias télévisuels, qui est une information de distraction, on va dire, qui passe, qui est éphémère. Voilà, je trouve ça assez intéressant à creuser comme réflexion. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre de mes cours avec mes élèves, je prends le temps de les amener à réfléchir à pourquoi on raconte des histoires, pourquoi on aime lire des histoires, pourquoi on aime dessiner des histoires, et puis surtout, qu'est-ce que c'est qu'un livre ? C'est quand même un mystère, cet objet. Voilà, on parle beaucoup de numérique, de machin, de trucs comme ça. Donc, moi, j'ai envie qu'on se pose la question, pourquoi on aime les livres ? Pourquoi le livre, en dehors de toute religion, est un objet sacré, qu'on ne détruit pas, qu'on ne brûle pas, on n'aime pas ça, qu'on entrepose dans des bibliothèques, c'est-à-dire que c'est pas un entrepôt, c'est pas un rangement dans un carton qu'on ne voit pas, on crée par notre bibliothèque une sorte de vitrine culturelle personnelle dans son appartement, dans sa maison, pour que les gens, quand ils viennent chez nous, puissent voir ce qu'on lit, qu'ils puissent voir ce qu'on est à travers nos lectures, à travers notre culture. Je trouve que c'est un lien social extraordinaire, et le livre, j'ai envie de le protéger. C'est pas par souci de protéger un objet papier, c'est par souci de protéger l'outil de la conservation de la connaissance et de la sagesse humaine. Je trouve ça extraordinaire. Donc on a besoin de se rappeler un petit peu ce genre de fondamentaux.
Alors dans ce cadre, quand vous travaillez avec les militaires, votre travail, il est rémunéré comment ? Comment vous fonctionnez ?
Dans le cadre
parce que c'est pas vendu, c'est pas.
Non, c'est pas vendu, mais c'est des budgets qui sont alloués par les gens qui nous contactent justement pour pouvoir payer les auteurs et puis fabriquer la bande dessinée. Donc voilà, les étudiants qui travaillent sur ces sujets sont rémunérés. Ouais, j'ai d'ailleurs le dernier projet sur lequel on travaille actuellement, donc c'est un travail avec le ministère de la décentralisation et de la fonction publique, avec madame Marie-Lise Lebranchu, sur l'innovation territoriale. Et quand on leur a proposé cette collaboration entre les élèves de l'école Émile Cole et de Sciences Po pour réaliser ces bandes dessinées, ils m'ont demandé de justifier pourquoi les étudiants qui sont dans le cadre scolaire devraient être payés. Et je comprends la question. De toute façon, à partir du moment où un ministère met de l'argent dans un projet, et c'est normal qu'il puisse savoir d'où va l'argent et à quoi il sert. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je leur ai expliqué justement que c'est pas une simulation. C'est une vraie mise en condition de l'élève dans les conditions du réel, de réalisation d'un bon de commande. Et il y a un engagement, il y a une implication personnelle qui est importante. Et puis, bon, l'école Émile Cole, c'est une école privée, c'est une école assez chère, donc ça permet aussi aux étudiants de soulager un petit peu leur porte-monnaie en faisant en sorte qu'ils soient rémunérés. Donc c'est tout un projet assez cohérent dans son ensemble. Voilà. Pour moi, je considère que c'est pas parce qu'un auteur est un jeune auteur ou un étudiant qu'on doit considérer tout ce qu'il fait comme étant, dans le cadre de son enseignement, donc gratuit.
Bien sûr, mais au niveau pour le donneur d'ordre, au niveau du coût pour lui, est-ce que c'est un coût supplémentaire de passer pour une BD, ou est-ce que c'est un coût classique qui peut se comparer
La BD, c'est difficile de dire si c'est cher ou c'est pas cher, parce que ça, tout dépend de à quoi on le compare. Un prix, c'est relatif. C'est-à-dire que si on compare la réalisation d'une bande dessinée par rapport à la réalisation d'un documentaire vidéo, c'est infiniment moins cher, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'actuellement, Une bande dessinée, ça peut être un investissement de 15 000, 20 000 ou 30 000 euros. Un documentaire, ça peut être 150 000, 200 000, 300 000 euros. C'est pas forcément les mêmes niveaux. On doit juste, si on compare une bande dessinée avec juste un article papier, c'est infiniment moins cher l'article papier. Mais après, ça dépend de ce qu'on veut obtenir et ça dépend à qui on s'adresse. Voilà. Donc c'est ce que j'explique d'ailleurs souvent aux gens avec qui on doit travailler. Oui, c'est cher. Mais il faut voir ce que ça rapporte, il faut voir ce que ça a comme répercussion sur le public visé. Voilà. Ce qui est très intéressant, et d'ailleurs c'est les retours qu'on a sur tous les premiers projets qu'on a fait, c'est que les gens sont très contents du retour sur investissement, si je dois utiliser un terme un peu classique du monde du commerce. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est pas est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher, c'est est-ce que c'est efficace. Voilà. Et je trouve que ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est montré particulièrement efficace. C'est-à-dire que la bande dessinée circule, la bande dessinée est lue par toute personne de tous âges. C'est très efficace. Enfin, c'est un langage populaire. Il faut bien savoir que tout le monde a dessiné un jour dans sa vie. Tout le monde. Voilà. Il y a la différence entre les dessinateurs et les autres, c'est qu'il y en a qui n'ont pas arrêté et d'autres qui ont arrêté. Mais tout le monde a une sensibilité, un attachement au dessin, à la représentation graphique. Donc forcément, dès qu'il y a quelque part une bande dessinée et que c'est plutôt bien fait, bien présenté, ça attire les gens. Et ce qui fait que certains sujets un petit peu complexes, qui n'auraient pas été forcément lus sous forme d'un article en texte, d'un seul coup sont lus sous la forme d'un article dessiné. Voilà, ça je trouve ça chouette.
Lu et relu.
Lu et relu, voilà. C'est Emilina Torini, qui est islandaise et que j'avais vue en concert il y a longtemps d'ailleurs au Ninkasi. J'écoute souvent ce qu'elle fait parce qu'elle a une voix magnifique et je trouve que pour se mettre dans l'ambiance quand il faut écrire, c'est absolument parfait.
Ça t'inspire ?
Ouais, beaucoup, ouais.
Tout à l'heure, on a évoqué assez rapidement la jeunesse dans le cadre des projets de l'épicerie séquentielle. Oui. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus l'orientation que ça va prendre et alors, peut-être nous raconter une histoire, voilà.
On n'en est pas encore tout à fait là de l'histoire, mais disons que le groupe de travail sur les suivis des auteurs et les nouveaux projets, on a imaginé un certain nombre de nouveaux projets éditoriaux pour l'épicerie parce qu'il y a d'autres envies. Et il y a des auteurs notamment qui aiment travailler pour la jeunesse. Et donc on s'est dit qu'il était temps de commencer à imaginer une nouvelle publication. Et on commence à travailler sur un bimestriel donc qui serait au format A4, mais sous forme d'un dépliant. Donc A4, mais quand on le déplie, ça devient à deux, trois, et jusqu'à A1. Voilà, ça fait un grand poster à la fin. Avec pas seulement de la bande dessinée, mais probablement aussi de l'illustration, peut-être de la photographie. On réfléchit un petit peu à un premier prototype pour voir à quoi ça va ressembler. Mais ça serait toujours des auteurs lyonnais sur des sujets lyonnais. Mais plus jeunesse, jeune ado. Voilà. Et le premier sujet sur lequel on a envie de travailler, ce serait sur l'historique du zoo du parc de la Tête d'Or, parce qu'il a un historique assez exceptionnel, et que parmi les professeurs de l'école Émile Cole, il y a Jean Grosson, qui est un dessinateur hors pair, mais passionné, spécialiste de la nature, des oiseaux, des plantes, etc., qui fait partie de l'association des Amis du Zoo, et qui peut nous apporter énormément de documentation sur ce sujet. Et l'idée, c'est plus on rentre dans le magazine, plus on rentre profondément dans le sujet. Voilà, c'est une thématique par numéro. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, ça c'est le premier projet qu'on remet ensuite entre les mains d'un groupe de travail composé de volontaires, et c'est eux qui vont transformer ce projet en ce qu'il sera au final. Donc on sait ni quand est-ce qu'il sortira, ni quelle forme il aura exactement à la fin. Tout peut changer encore, puisque nous, ceux qui font partie du groupe Nouveau Projet, ben on impulse des nouveaux sujets, mais après, ce sont ceux qui vont le faire, qui décideront de la forme qu'il aura. Donc, encore une fois, il n'y a pas de chef qui décide pour tout le monde de ce qu'on va faire.
Et c'est avec aussi l'idée de dépasser la BD, tu parlais photos, donc d'avoir aussi de nouveaux, talents qui rentrent dans l'association.
Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup d'auteurs jeunesse très, très talentueux ici sur Lyon. Et que, moi, je considère que ce qui est intéressant dans un langage, c'est quand on commence à le triturer, à le manipuler dans tous les sens et essayer de voir ce qu'on peut faire en termes d'expérimentation. L'idée, c'est pas de faire un magazine qui ressemble à un magazine pour faire comme les grands. L'idée, c'est de faire un magazine comme un creuset d'expérience. Le langage de la bande dessinée peut s'associer à de l'illustration, à de la photographie.
Ça peut effacer les frontières entre différents.
Ça ne veut pas dire que dans le même numéro, on aura sur une page de la bande dessinée, sur une page une illustration, sur une page de la photo et sur une page des articles. L'idée, c'est de tout mélanger. Voilà, c'est à l'intérieur même d'une narration bande dessinée, d'avoir des photos qui viennent s'intégrer dans la narration, du texte écrit à la main ou je ne sais quoi, avec des articles. Enfin, voilà, mélanger tout ça, essayer de voir ce qu'on peut sortir comme nouvelle façon de raconter des histoires à travers ce magazine, ce dépliant. Voilà, pareil, jouer sur la forme, parce que ce qui est important, c'est l'objet. L'objet, c'est ce qui permet de créer un lien entre le lecteur et les auteurs. Un objet, comme je disais tout à l'heure, qui va rester. Cet objet, il peut aussi être ludique.
Là, c'est comme une affiche.
C'est un peu comme une affiche.
On pourra le mettre dans sa chambre.
On peut faire plein de choses. Ouais. Ouais. C'est un petit peu l'idée, c'est de triturer cet objet dans tous les sens pour voir ce qu'on peut en sortir. Voilà. Ouais. Mais c'est surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous adresser à une partie de la population lyonnaise qui vit à Lyon et qui a une vraie curiosité aussi pour comprendre comment ça marche une ville. Donc au-delà du zoo, les prochains sujets sur lesquels on aimerait travailler, c'est par exemple le circuit de l'eau à Lyon, c'est-à-dire parce qu'il y a des anciens réservoirs souterrains qui sont assez extraordinaires, les services de retraitement des eaux, il y a plein de choses. Puis là, j'ai un copain qui travaille à l'agence de l'eau à Gerland qui peut m'apporter des informations là-dessus. On peut faire des visites, des lieux un peu extraordinaires, l'histoire du Rhône, l'histoire de l'utilisation de l'eau, enfin voilà, les crues. On peut en raconter des milliards de choses. Pareil sur, il y a plein de questions toutes bêtes qu'on peut se poser. Comment ça marche la gestion de la circulation des voitures en ville? Qui c'est qui est derrière? Qui c'est qui appuie sur les boutons pour faire passer les feux du rouge au vert? C'est des questions toutes cons, mais on a envie de savoir comment ça se passe derrière. Voilà. Donc c'est un petit peu creuser les différentes couches de fonctionnement de notre ville. Et ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis je vais déborder un petit peu sur la question pour parler d'autres projets qu'on est en train de mettre en place.
Parfait.
Qui seront des hors-série. Par rapport à notre magazine Les Rues de Lyon. Donc on commence à mettre en place des collaborations avec notamment le musée Gadagne, qui est le musée de l'histoire de la ville, qui aimerait bien travailler avec nous sur des hors-séries, notamment au mois de juin prochain, dans le cadre de l'Euro 2016. Il y a une grosse exposition qui va avoir lieu au musée. Je n'ai pas encore le droit de dire sur quelle thématique, mais ça tourne autour du football. On va travailler sur un hors-série sur cette thématique aussi. Mais ça ne sera pas raconter un match en bande dessinée, ça sera un petit peu différent. Et sinon, on a aussi un partenariat avec le festival de bande dessinée de Condrieu, donc qui est une très jolie ville, petite ville en face de Vienne, au sud de Lyon. Ville fameuse pour son vin vin, le Condrieu. Si vous connaissez pas ce vin, je vois pas ce que vous attendez pour courir. C'est un peu cher, mais c'est quand même un vin qui, pour moi, est le meilleur du monde. Et cette ville organise un festival, ça va être la 4e édition au mois de mars prochain. Et ils nous ont demandé si on pouvait faire un numéro hors série sur les rues de Condrieu pour raconter en bande dessinée, ben, comment on a commencé à faire du vin dans cette région. Voilà. Et le scénario, donc, c'est,
y a pas. Là, c'est une commande, quoi.
Ouais, c'est une commande, ouais, entre guillemets. C'est une proposition de collaboration, on va, ouais, dire, plutôt. Et ils nous ont dit, voilà, est-ce que vous avez des auteurs pour faire ça? Ben, nous, on a dit, ben, vous avez pas de dessinateur sur place. Nous, on en a. Mais par contre, l'histoire, c'est vous qui allez la raconter. Il faut quand même que ça vienne de chez vous. Et ils nous ont fait un petit synopsis pour nous raconter l'histoire et c'est assez chouette. Donc, là aussi, on est très content de travailler sur ce genre de choses, et on a d'autres projets comme ça qu'on a envie de mettre en place sur des collaborations avec différentes institutions pour proposer, voilà, des petites surprises comme ça dans l'année, ouais. Et ça aussi c'est rigolo.
Hors série en quelque sorte.
Exactement, des hors série, ouais.
Alors cette expérience de BD en circuit court qui est fabuleuse, hein. Est-ce que tu penses que ça pourrait diffuser plus largement, à la fois dans les esprits, mais aussi sur des secteurs qui pourraient aussi, eux, s'orienter vers ce système, cette activité?
Ben, c'est un petit peu le but de l'expérience. C'est-à-dire que, dès le début, quand on a commencé à travailler sur le projet, pour le financer, on a fait appel au système du crowdfunding. C'est-à-dire qu'on est passé par un site internet qui s'appelle Ulule, qui permet de présenter à un public son projet dans ses moindres détails et de proposer aux gens de pré-acheter un abonnement, des numéros. Et voilà, on avait demandé 11 000 euros pour financer les 6 premiers numéros. On a obtenu 23 000 euros. C'est un vrai succès et ça permet d'impliquer les premiers lecteurs dans la création du projet, puisqu'on a communiqué beaucoup tout le long de la fabrication des premiers journaux sur nos différents réseaux, les différentes étapes de fabrication qui participaient à ça. Donc il y a un lien affectif qui se crée. On parlait aussi du fonctionnement de notre association, comme je le disais tout à l'heure, sans hiérarchie. Donc c'est un truc de... un peu d'anarchiste, c'est pour ça que je pense que cette radio est le bon endroit pour en parler.
Ouais, ouais.
Et c'est une expérience qui m'intéresse moi personnellement, parce que j'ai un appétit pour la compréhension de la politique. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu, enfin dans une époque où la dépolitisation est galopante, parce qu'on n'y comprend plus rien, et donc il est nécessaire de se rééduquer à ce genre de notions. Donc ça fait un certain nombre d'années que je travaille à essayer de comprendre de quoi qu'on me cause dans le poste quand on me parle de politique, et je me dis que au-delà de la simple formation théorique, il est temps que je me mette dans les conditions du réel, c'est-à-dire d'expérimenter
une pratique
avec un groupe, ce que c'est que l'autogestion, et ce que c'est que la création d'un projet, la production d'une revue avec un fonctionnement qui est très éloigné du fonctionnement d'une entreprise classique. Et c'est assez drôle parce que quand j'en parle à des copains qui eux sont dans le milieu de l'entreprise, ils me disent, mais il n'y a pas de hiérarchie, est-ce que c'est pas un peu le bordel? Et moi je leur réponds, ben si, c'est le bordel, mais comme dans les entreprises où j'ai travaillé avec une hiérarchie, c'était aussi le bordel, j'en ai conclu que la hiérarchie n'était pas une solution pour empêcher le bordel. Et quand le bordel, bon, on l'assume, ben finalement il y a des systèmes d'auto-organisation qui se mettent en place, et quand il y a de la patience et de la bienveillance, et ben finalement ça s'organise assez bien.
Il y a des bordels qui sont plus faciles à vivre que d'autres.
Oui, tout à fait, oui, on est bien d'accord. Donc il y a un vrai travail sur soi dans cette collaboration qui fait que, ben, on en tire des modèles, des expériences, et puis depuis un certain nombre de mois, et il y a d'autres auteurs de Bretagne, de Amiens, de Rouen, d'Espagne aussi, de Barcelone, qui m'ont contacté en disant, on aime bien ce que vous faites, entre ça chouette, et on aimerait bien peut-être travailler sur un projet du même genre dans notre ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience et comment ça peut nous servir de modèle?
Et sur la BD uniquement?
Sur la bande dessinée pour l'instant. Après, de toute façon, l'expérimentation qu'on mène, on n'est ni les premiers ni les derniers à le faire, on est bien d'accord. Et c'est une étape de plus dans la réflexion collective sur la manière de monter en collectif des projets, avec cette règle qui consiste à dire, le but premier de notre opération, c'est pas l'argent, c'est le plaisir, c'est la rigolade et c'est la bande de copains. Et voyons voir si c'est rentable, ce genre de principe de fonctionnement. Et donc, voilà, les petites expériences qu'on mène apportent des solutions, nouvelles, je sais pas, en tout cas nouvelles pour nous. et qu'on diffuse, qu'on fait circuler, dont on parle beaucoup autour de nous et qui, je l'espère, oui, donne un petit peu confiance à d'autres personnes. Ça rejoint le travail que je fais faire avec les étudiants dont je parlais tout à l'heure sur les reportages sur l'innovation citoyenne. C'est-à-dire que si on se réfère uniquement à nos médias traditionnels, on a l'impression que tout part en eau de boudin, comme dirait ma grand-mère. Et finalement, quand on fouille un petit peu, on se découvre qu'il y a un nombre incroyable d'associations, de groupements citoyens en France qui se battent pour le bien commun et qui essayent justement de faire les choses autrement. Et ça, je trouve ça chouette et plutôt encourageant. Ça donne de l'espoir, ça donne des solutions à envisager pour l'avenir, pour un avenir un petit peu plus rose. Et j'ai envie de participer à ça, ouais.
En parallèle, tu as d'autres projets dans un cadre plus classique, une série en vue, un successeur à Lincoln.
Pas encore de successeur à Lincoln. Donc Lincoln, voilà, c'est la série que je réalise depuis une douzaine d'années avec mon frère qui est dessinateur et ma belle-sœur qui est coloriste. Donc c'est une vraie entreprise familiale. On a déjà sorti 8 tomes de cette série qui a commencé comme un western humoristique et qui se continue comme une pérégrination à travers l'histoire des États-Unis et à travers un personnage un peu casse-bonbon, on va dire. Et puis là, on travaille sur le 9e tome. Voilà, qui va parler un petit peu d'anarchie d'ailleurs. Et puis je travaille également sur un boulot de commande pour les éditions Glénat dont je parlais tout à l'heure et qui est un bouquin sur Martin Luther et la réforme protestante au XVIe siècle. On m'a demandé de travailler là-dessus, si ça m'intéressait de travailler là-dessus. Comme je suis athée et complètement inculte en matière de protestantisme, je me suis dit que c'était l'occasion là encore une fois de m'éduquer à ce genre de choses. Mais j'en bave un maximum pour écrire ce scénario parce que c'est pas simple du tout. Et puis j'ai un projet effectivement avec mon frère, toujours sur l'histoire de la politique en bande dessinée, mais un peu drôle hein, parce que sinon les trucs sérieux ça m'ennuie très très vite.
L'histoire de la politique en France
en Occident on va dire, c'est comment ça a commencé, quand est-ce qu'on a commencé à parler de politique et comment c'est devenu, enfin ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis posé des questions quand j'étais plus jeune en me disant mais en France, république et démocratie, on nous montre que c'est la même chose. On se doit d'être républicain et démocrate. Et aux États-Unis, ils sont pas d'accord. Et puis, un pays qui a dans son nom le mot démocratique, généralement, c'est une dictature. Donc, je me suis rendu compte que finalement, les mots n'avaient pas vraiment de sens et j'y comprenais rien. Donc, je me suis dit, il va falloir que je comprenne. Et donc, j'ai envie de faire un bouquin pour parler un petit peu de cette recherche personnelle et puis de remonter jusqu'aux origines, peut-être, je sais pas, à Athènes ou. Et aux origines de la démocratie pour commencer à remonter le temps jusqu'à nos jours pour dire ben voilà comment on en est arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, ça m'intéresse beaucoup comme sujet.
Pour acheter les rues de Lyon, pour s'abonner, on fait comment alors ?
Alors pour les acheter, il y a deux façons de faire. Soit on passe par son libraire favori à Lyon, si on est basé sur Lyon, parce qu'il y en a beaucoup qui sont distributeurs de notre
Ils distribuent juste le dernier ou si on veut...
Non, ils ont les anciens numéros,
tout
à fait,
aussi.
Sans problème. Puis s'ils l'ont plus, il suffit de leur demander de le commander, ils le reçoivent très rapidement. Sinon, il faut passer par notre site internet www.épiceriesequentielles.com. Et sur ce site internet, il y a une page abonnement qui permet justement de s'abonner pour un an à notre revue. On peut aussi s'abonner à partir du premier numéro, donc on peut commander les anciens. Voilà, parce que c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que la plupart des gens qui s'abonnent justement prennent les premiers numéros, donc ça veut bien dire que la collectionnite marche à fond, c'est ce qu'on avait envie d'installer. Et puis sinon, de temps en temps, sur les festivals locaux, on peut nous retrouver, notamment ce prochain samedi. Alors ce samedi, je serai avec quelques auteurs au Salon du Livre de Chazé-Lazergue. Voilà, et puis sinon, je crois qu'il y a d'autres... le prochain, ça doit être Condrieu au mois de mars. Voilà. Il y aura peut-être d'autres événements entre-temps, mais sinon, il y a plein de choses comme ça où on peut nous trouver et nous voir.
Eh bien, merci Olivier.
Merci à vous. Merci de m'accueillir ici, c'était un vrai plaisir.
Et on se retrouve dans 2 semaines. Here's the promise! Don't